Je vous ai, la semaine dernière, révélé le thème du message de ce dimanche et ce sera le même thème pour la semaine prochaine puisque ça sera suivi et bâtir sans avoir peur des échardes. Qu'est-ce qu'il veut nous dire le frère par là ? Je crois qu'il est important quand on veut travailler de prendre connaissance qu'il y a toujours quelque chose qui va un peu nous embêter. Hier, il y avait toute une équipe qui a travaillé à nettoyer l'extérieur, à enlever les mauvaises herbes. Et quelques-uns m'ont dit, ah, il y a des épines. Amen. C'est comme ça, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'il y a des gants? Comme ça, on les arrache. Et je me dis, ça, c'est la bonne attitude qu'on doit avoir dans notre cœur. Ne pas rester bloqué sur le problème, mais chercher en Dieu la solution. N'est-ce pas? Alors, il y a un homme qui a été appelé à bâtir. Et je crois qu'il a dû en voir des échardes. Hébreux chapitre 11, verset 7, il nous dit, Hébreux 11, verset 7, « C'est par la foi que Noé, divinement averti de ce qu'on ne voyait pas encore, est saisi d'une pieuse crainte, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. » J'aimerais cette semaine et la semaine prochaine parler de Noé, un homme quand même remarquable, un homme particulier. Pourquoi ? Parce qu'il vit dans un contexte très compliqué, plus compliqué que le nôtre. Comprenons bien, on va le lire. Le regard de Dieu sur la terre et sur ce monde habité, sur ce monde où les hommes se sont complètement détournés de Dieu, il y en a un qui est resté attaché à Dieu et c'est Noé. On va lire ensemble dans le livre de la Genèse à chapitre 6 à partir du verset 5. Genèse chapitre 6 à partir du verset 5 nous dit « L'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre et que chaque jour son cœur ne concevait que des pensées mauvaises. L'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre et son cœur fut affligé. L'Éternel dit, « J'effacerai de la surface du sol l'homme que j'ai créé depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je regrette de les avoir faits. » Mais Noé obtint la faveur de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre parmi ses contemporains. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra trois fils, Sem, Cham, Yaphet. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu vit que la terre était corrompue, car toute chair avait une conduite corrompue sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, « J'ai décidé de mettre fin à tous les êtres vivants, car la terre est pleine de violence à cause d'eux. Je vais donc les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois, de gopher, tu disposeras cette arche en cellules, et tu la couvriras d'un enduit, en dedans, en dehors. Tu la feras comme suit. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur, 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une ouverture d'une coudée disposée tout en haut. Tu placeras la porte de l'arche sur le côté et tu feras un étage inférieur, un second et un troisième. Et quant à moi, je vais faire venir le déluge sur la terre pour détruire toute chair qui, sous le ciel, a souffle de vie. Tout ce qui est sur la terre périra. Mais avec toi, j'établirai mon alliance. Tu entreras dans l'arche avec tes fils, ta femme et tes belles-filles. Tu feras aussi entrer dans l'arche deux animaux de chaque espèce vivante pour qu'ils survivent avec toi. Tu prendras un mâle et une femelle. Un couple de chaque espèce, oiseaux, bétail, reptiles du sol, viendra vers toi afin de survivre. Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange et faisons des provisions auprès de toi pour que cela te serve de nourriture ainsi qu'à eux. » C'est ce que fit Noé. Il agit en tout point comme Dieu lui avait ordonné. Amen. Première lecture. Noé est là, dans un monde qui est complètement détourné de Dieu. Moi, je dis que pour que Dieu décide de détruire le monde entier, ce que Dieu voyait devait être horrible. Et je ne suis pas sûr que ce que Dieu voit aujourd'hui soit forcément meilleur, ou qu'on puisse dire, Seigneur, on n'est pas comme du temps de Noé. Je dirais que peut-être on est pire. Parce que le problème, c'est que le cœur de l'homme est mauvais, dit la parole de Dieu. Et le seul qui puisse véritablement transformer ce cœur, c'est Jésus. La parole de Dieu nous dit que l'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre et son cœur fut affligé. D'autres traductions disent « peiné ». Vous imaginez le cœur de Dieu peiné? Nous, quand un de nos enfants fait une bêtise, je ne dis pas qu'il ait mis les doigts dans le pot de confiture ou de pâte à tartiner pour ne pas faire de pub. Pour nos amis suisses, ce n'est pas parce que l'enfant a mangé la plaquette qui était au frigo qui était réservée à papa et maman. Hein? Non. C'est ces grosses bêtises qui font qu'à un certain moment, les parents ils sont peinés de se dire « Mais pourquoi? Pourquoi ?» Et moi, je crois que Dieu, encore aujourd'hui, il est peiné. Pas seulement de voir ce que le monde fait, mais aussi parfois ce que ses enfants font. Ce que nous prenons comme décision, ce que nous prenons comme direction. L'Éternel regretta. Moi, je pense et je suis convaincu de ce que je vais vous dire, c'est que Dieu voit tout. En tous, et ils voient tous. N'est-ce pas? Le psaume 107, versets 33 et 34, dit « Il change les fleuves en désert et les sources d'eau en terre desséchée. Le pays fertile en pays salé à cause de la méchanceté de ses habitants. » Waouh! La nature souffre à cause de notre comportement. Le monde souffre, la nature en elle-même, elle est malheureusement, obligée de souffrir à cause de l'attitude des hommes. Et vous voyez ça, ça a commencé du moment du péché d'Adam et Ève. Dieu dira à Adam, tu vas devoir travailler une terre qui va être dure. Jusque-là, je pense que il n'avait pas de difficulté à voir pousser ses légumes. Hein? Il prenait un petit bâton, il faisait un petit trait, il jetait la semence et hop, ça poussait. Mais à partir de là, il a dû se faire des instruments pour aller creuser en profondeur. Je vois les spécialistes du jardinage me regarder et se dire « Ah, qu'est-ce que ça serait bien ça, juste avec un petit bout de bâton, hein ma sœur ?» Pas de mauvaises herbes. Ah mais non, que des bonnes herbes. Et là, à cause du péché de l'homme, tout a perdu cet aspect de bénédiction que Dieu avait donné à l'homme. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 5, les versets 28 et 29, on a cette parole qui ressort, qui est en effet l'arbre généalogique de Noé. Et je n'ai pas voulu tout lire parce que ça va nous prendre un moment et il y a des noms qui sont très simples à prononcer. Mais je vous laisserai le soin de les prononcer chez vous. Hein. Mais j'ai pris juste cette partie. Lémec, père de Noé, âgé de 182 ans, engendra un fils. Pas mal, hein, 182 ans. Il lui donna le nom de Noé, consolé, en disant celui-ci, nous consolera de la peine que nous causent nos durs travaux manuels sur le sol que l'Éternel a maudit. Cette situation, elle durait depuis un bon moment. Dieu, vous savez, n'intervient pas d'un coup et d'un coup sec. Il donne toujours le temps. Il laisse toujours la possibilité de prendre un virage dans notre vie. Dieu nous accorde toujours la possibilité de changer de direction. Et la preuve en est, c'est que parmi tous les hommes qui étaient sur la terre, il y en a un qui n'a pas pris la mauvaise direction. Et je crois que nous ne pouvons pas évoquer l'excuse de dire à Dieu, mais tu sais, c'est le monde dans lequel nous vivons. Seigneur, c'est les situations dans lesquelles nous nous trouvons. Seigneur, tu comprends, tu vois le quartier dans lequel je suis. Je ne peux pas faire autrement. Parce qu'alors Noé, il aurait dû dire quoi ? Il se tournait à droite, il se tournait à gauche, il voyait que des hommes détournés de Dieu, occupés à manger, à boire, à marier leurs fils et leurs filles. Voilà, c'était la fête. Mais rien qui ramène à Dieu. Alors, on voit que Dieu a un plan. Et je voudrais vous dire, frères et sœurs, quoi que nous puissions regarder autour de nous, quoi que nous puissions voir encore aujourd'hui, et peut-être parfois même craindre à cause de ce qu'on voit, de ce qu'on entend, la violence qui devient de plus en plus présente, gratuite, sans quartier, peu importe l'âge, on voit des enfants tuer des enfants, on voit des adultes agir d'une manière terrible. C'est horrible ce qui se passe, non ? Vous pensez vous aussi comme ça ? Mais alors qu'est-ce que Dieu en pense ? Comment Dieu voit tout cela et qu'est-ce que Dieu est en train de faire ? Alors moi je lis dans ce texte quelque chose, comme si Dieu met un point d'arrêt et dit maintenant stop. Et vous verrez que la patience de Dieu que je vous ai tout à l'heure annoncée, elle est grande, hein. Parce qu'il va voir Noé et lui dit, Noé, tu as obtenu faveur à mes yeux. Waouh ! Qui croit ce matin que si vous êtes à Jésus-Christ, c'est parce que vous avez obtenu faveur ? Oui ? Est-ce qu'on vit tous les jours en disant, Seigneur, merci pour la faveur que tu m'as accordée ? Seigneur, certes, le monde va comme il va, mais moi, je remercie Dieu de la faveur qu'il m'a accordée. Vous savez, ça nous permet de regarder les infos différemment. Et parfois, je voudrais vous dire, laissez tomber les infos. C'est mieux. Alors Dieu dit à Noé, j'ai décidé de mettre fin à tous les êtres vivants, la terre est pleine de violence, mais toi, fais-toi une arche de bois, de gopher. Alors je ne sais pas si Noé était de métier charpentier. Je me suis posé la question, mais j'ai trouvé ça nulle part. Néanmoins, Dieu lui dit, tu vas construire une arche. Et Noé a dû dire, super, il vient d'ouvrir un grand magasin de bricolage juste au coin. Je vais pouvoir me servir en matériaux, ça va être nickel. Hein ? Et Dieu lui dit, tu vas faire un petit bateau, 50 coudées de largeur sur 30 coudées d'auteur, sur 300 coudées de longueur. Alors si on parle en coudées, ça ne nous dit pas grand-chose. Alors vous divisez et ça vous donne un mètre, 150 mètres de longueur, 25 mètres de largeur sur 15 mètres de hauteur. Ce n'est pas un petit bateau. Alors moi, je crois que les frères, ils sont contents que je lui ai dit, on fait un espace chauffe-plat avec des mesures plus petites. Hein ? Non ? Ça a été plus vite que ce que ça a été le cas pour Noé. Mais je pense qu'il est important, frères et sœurs, de considérer ce qu'il fallait à Noé pour garder le cap pendant tout ce temps. Je me suis imaginé à la place de Noé un instant, avec le message que Dieu lui donne, et ce n'est pas, excusez-moi, la chaîne télé qui lui dit, tu sais, il va y avoir peut-être ceci, peut-être cela. Ce n'est pas la météo qui peut se tromper, c'est Dieu qui lui dit, voilà ce qui va se passer. Et voilà ce que tu dois faire. La parole de Dieu ne nous dit pas si Noé était un bon bricoleur ou pas. Néanmoins, je crois que quand Dieu nous demande quelque chose, il nous donne le savoir et le faire. N'est-ce pas ? Alors n'ayons pas peur quand Dieu nous demande quelque chose. Mais en même temps, comment tenir le cap vis-à-vis de ce qu'il voit. Premièrement, il va garder dans son cœur la parole de Dieu. Parce que vous savez, il a fallu quand même un certain temps pour construire l'arche. Non ? Vous savez combien de temps ? Combien ? 120 ans. Waouh ! Faut y aller pour tenir 120 ans en faisant toujours la même chose, non ? Nous, quand on le fait une semaine, 10 jours, déjà, on est fatigué. Moi, parfois, je rigole, je vois les jeunes rentrer dans le monde du travail, dire « quand je serai à la retraite ?» Je dis « c'est bien, il y a de l'espérance. » Mais Noé, quand il a commencé, qu'il a mis la première planche, et qu'il a dû certainement faire avec les pas, prendre les mesures, non ? Et mettre les pieds où là il fallait pour se dire « voilà comment tu vas devoir faire ». Oh là là ! Il dit « la retraite, elle est loin hein ». Et là, il a commencé à placer le matériel, mais il devait garder, pour garder le cap, dans son cœur la parole de Dieu. Je voudrais vous dire, si nous voulons garder le cap, il faut garder dans notre cœur la parole de Dieu, les promesses de Dieu, les vérités que la parole de Dieu nous décrit, ce que Dieu va faire. Certes, les derniers temps vont être terribles, mais moi je sais que pour ceux qui sont en Christ, il y a un son de trompette qu'on attend. Non ? Alléluia ! Certes, le monde va comme il va, mais Dieu a préparé et a envoyé son Fils pour nous donner un plan de salut. La parole de Dieu lui dit « Je vais détruire l'humanité », verset 13, mais en verset 18, « Mais avec toi, j'établis une alliance. » Amen. Deuxième chose, pour garder le cap, il va falloir qu'il partage son appel avec sa famille. Il ne pouvait pas faire appel à la main-d'œuvre locale. Il ne pouvait pas embaucher qui que ce soit pour travailler au salut. Et je crois, frères et sœurs, qu'on doit faire attention parce que parfois on fait des mauvaises alliances. On ne peut pas bâtir le salut, excusez-moi, avec des personnes qui ne croient pas dans le salut. Ils peuvent être de mauvais conseils. Ils peuvent nous amener à nous détourner de ce que Dieu nous dit parce qu'ils vont utiliser une logique qui n'est pas celle de Dieu. Qu'est-ce qui doit être le moteur de notre foi ? Jésus-Christ, quoi encore ? Vous savez, c'est un peu comme les points cardinaux. Si vous ne voulez pas tromper, il faut savoir bien viser. J'ai besoin de Jésus-Christ dans ma vie. J'ai besoin du Saint-Esprit dans ma vie. J'ai besoin de prendre la parole de Dieu avec une sainte crainte, puisqu'il nous dit que Noé avait une sainte crainte. Il avait ce respect pour la parole de Dieu. Et il y a ce facteur de l'obéissance, parce qu'il faut le faire d'être obéissant pendant toutes ces années, non ? En plus, plus les jours passent, plus on prend de l'âge. Et vous imaginez, Noé, pendant 120 ans, il coupe des planches. Il cloue des planches. Et je suis certain que ces planches, elles n'étaient pas toujours bien lisses, rabotées. Alors il a dû en voir des échardes. Nous, quand on fait quelque chose ou quand le Seigneur nous demande de faire quelque chose, on s'attend à avoir des planches toutes propres. On aime bien que ça soit, comment dire, un plan qui se passe sans accroc. Seigneur, que ça coule de source, comme de l'huile. Ben, dites-le à Noé. Selon vous, il a pris combien d'échardes dans ses mains, Noé ? Dites-moi. Commençons par jour. Allez. Faites une estimation par jour. Vous n'osez pas ? Si on commence quelque chose de simple par jour, une. Par année, ça fait combien ? Et sur 150 ans, ça fait combien ? Oh là là ! Au départ, c'est pas grand-chose une écharde, non ? Mais à l'arrivée, ça fait un sacré paquet d'échardes. Est-ce qu'on est prêt, nous, à accepter de bâtir malgré les échardes ? Ou est-ce que les échardes deviennent pour nous un sujet de dire « Eh ben, j'arrête tout ! Seigneur, il fallait que tu me donnes des planches toutes propres !» Seigneur, tu me donnes un plan comme ça et en plus, tu as vu la taille du navire. Fais au moins qu'il n'y ait pas d'échardes. Je ne sais pas, un minimum. Il faut me faciliter la tâche. Et les échardes, vous savez, elles n'étaient pas que de bois. Elles étaient aussi morales parce que je pense que Noé a dû en entendre de toutes les couleurs. Hé hey Noé, qu'est-ce que tu fais ? Eh bien, je bâtis une arche parce que Dieu va détruire le monde. Noé, t'es fou, Noé. En plus, il n'y a pas d'eau ici. Qu'est-ce que tu veux faire avec ton arche ? Hein ? Comment tu veux faire que ton arche, elle bouge ? Mais Dieu va faire venir de l'eau. Oh, oh, Noé, quand les poules auront des dents. Sauf que je crois que quand Dieu dit quelque chose, Dieu le fait. Et faisons attention à juger la parole de Dieu avec ironie et parfois même avec mépris. Alors, on voit que Noé, il dit au verset 22, et j'ai trouvé ça magnifique, c'est ce qui fit Noé. Il agit en tout point comme Dieu lui avait ordonné. C'est beau ça, non ? Qui aimerait être comme Noé ? Alors je parle au futur. Est-ce que j'ose poser la question, qui est comme Noé ? On a du travail, on a du pain sur la planche. On a à accepter que le Seigneur puisse nous dire, et tu vas construire, et pas seulement pour toi. Parce que vous voyez, parfois, nous pourrions être tentés de travailler en mode réduit. Noé, il aurait pu dire, moi, je travaille pour moi et ma famille. Mais en même temps que Dieu était prêt à détruire l'humanité, était prêt à détruire aussi tous les animaux. Et puisqu'il a décidé et il a regardé à Noé favorablement, il a regardé à toute la nature favorablement. Donc Noé, il était obligé de bâtir pas seulement pour lui, mais aussi il devait inclure les animaux dans l'équation. Dieu voit bien plus loin que nous. Dieu savait ce que Noé avait besoin. Combien c'est merveilleux de se promener dans cette belle région qui est la Camargue, n'est-ce pas ? Arles, magnifique. Moi, je me régale. Vous sortez, hier soir, on entendait des oiseaux, non ? On a été se promener, on a vu des flamants roses. C'est magnifique, ça. Vous n'en avez pas à Paris, de flamants roses, sauf aux eaux. Non ? Alors, vous imaginez, Noé, il a été l'instrument de Dieu pour que nous puissions voir tout cela. À chaque fois, un couple. Alors, j'aimerais aller plus vite que ça. On voit au chapitre suivant, une fois que Noé rentre dans le... a fini de construire pendant 120 ans, il a construit l'arche. On est d'accord ? Au bout de 120 ans, Dieu lui dit, maintenant c'est le moment de rentrer dans l'arche. Et une fois que tu as obéi en faisant tout ce que je t'ai demandé pour la construction de l'arche, les préparatifs de l'alimentation, la préparation aussi de ta famille. Pendant 120 ans, Noé a été un messager de la justice divine. Est-ce que vous pensez que si quelqu'un avait changé de cœur, est-ce qu'il aurait eu le droit de rentrer dans l'arche ? S'il avait changé son cœur. Mais vous vous rendez compte, pendant 120 ans, il n'a pas vu une âme nouvelle, Noé. C'est terrible de prêcher pendant 120 ans et de ne voir jamais une âme nouvelle. À quoi sert-il encore de prêcher, Seigneur ? Mais vous savez, même avec notre comportement, nous prêchons une bonne nouvelle. Là où vous êtes, dans votre lieu de travail, vous prêchez la bonne nouvelle. Ah, mais je ne peux pas parler du Seigneur. Non, tu n'as pas besoin d'en parler. Vis le Seigneur. Et tu témoignes déjà par ton comportement, par ton attitude. Tu donnes un message. Et la parole de Dieu nous dit que c'est un parfum de vie pour ceux qui croient, mais un parfum de mort pour ceux qui ne croient pas. Parce qu'ils seront jugés puisqu'ils ont reçu l'appel, mais ils ne l'ont pas accepté. Alors la construction, elle est faite. J'attire votre attention sur le fait qu'il y aura une porte d'entrée. Et il y aura une petite fenêtre sur le toit. Une fenêtre qui fait à peine 50 cm. Sur un navire de 150, c'est quand même particulier, d'accord ? Vous retenez ça parce qu'on va en parler la semaine prochaine. Mais là, Il est question de rentrer. Une fois que Noé est rentré, les animaux sont rentrés. Alors vous imaginez, Marc, tu es là devant l'arche. Et là, tu as deux éléphants qui arrivent. Deux tortues. Deux lions. Des tigres. Je ne sais pas quoi encore. Les girafes aussi, voilà. On voit ceux qui aiment encore les girafes. Hein ? Les taureaux de Camargue. Tu vois, tous les animaux arrivés, après Dieu te dit, vas-y, rentre. Et Dieu ferme la porte. Ce n'est pas Noé qui décide. Et croyez-moi, nous, on est des exécuteurs de la volonté de Dieu. Mais c'est lui qui décide et demeure Dieu. Ne prenons pas la décision de nous décider ce que Dieu doit faire. Dieu fera ce qu'il a prévu de faire. Et pendant tout ce temps, moi, je ne vois à aucun moment Noé se plaindre. Alors, combien de temps Noé a passé dans l'arche avec sa femme, ses fils, ses belles-filles et tous les animaux? Avez-vous fait un calcul? Treize mois. Déjà, ils sont rentrés dans l'arche, il n'a pas commencé à pleuvoir avant 7 jours. Et là, pendant 7 jours, on pourrait se dire, mais Seigneur, tu pouvais nous laisser encore une semaine de liberté, tu nous as confinés. Je pense que Noé, il y a des moments dans l'arche, il aurait bien voulu avoir un masque. Soyons pratiques, non ? Alors oui, notre sœur, il dit, mais il devait être fatigué après tous ses travaux, il a dû se dire, oh là 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 là, c'est bon, le confinement, c'est bon, je vais me reposer. Je fais du télétravail. Sauf que tous les jours, il fallait nourrir les animaux. Est-ce que je ne pense pas qu'on puisse s'approcher du tigre en lui disant « Écoute, je te donnerai à manger demain. » Non ? Et après quoi, finalement, la pluie tombe. Le temps passe. 13 mois. 13 mois sans voir la couleur du ciel, sans pouvoir se promener, sans pouvoir respirer à l'air libre, sans pouvoir cultiver son jardin. Et il est là confiné avec sa famille. Mais pendant tout ce temps, pas de lamentation ou de plainte de la part de Noé. Et moi je dis, Seigneur, apprends-nous à ne pas nous plaindre. Apprends-nous, Seigneur, à ne pas toujours être là à pointer du doigt ce qui ne va pas, mais de dire, Seigneur, merci pour ce qui marche. N'est-ce pas ? Est-ce qu'on est capable de ne pas nous plaindre ? Vous savez, on m'a dit que certains peuples, certaines nations, excusez-moi, râlent plus que d'autres. Qui a dit les Français ? Qui a osé faire ça ? Mais vous savez, je parle autant qu'italien, je suis italo-français. Je crois que les deux nationalités qui sont présentes au moins me permettent de dire que en Italie et en France, on râle de la même manière. Et je suis certain que si on se déplace en Belgique, en Allemagne et tout ça, tout le monde est capable de râler. Mais je crois qu'autant qu'enfant de Dieu, on devrait abandonner ce type de comportement. Parce que quand on agit comme ça, ça devient des murmures. Et Dieu n'aime pas quand le peuple murmure. Vous vous rappelez la difficulté de Moïse à chaque fois que le peuple murmurait. Alors, je pense que la présence de Dieu dans notre cœur nous permet de garder et de regarder en avant avec espérance et avec joie. Si je garde mes yeux fixés sur le Seigneur, je n'ai pas besoin, excusez-moi, de râler. Je n'ai pas besoin de rentrer dans les mêmes discours que tout le monde porte. Parce que mes yeux ils sont fixés sur Jésus, mon espérance. Et je change mon langage et je change aussi ma manière de faire. Romains chapitre 12, verset 12. Il dit, réjouissez-vous en espérance. Soyez quand tout va bien. Énervez-vous quand tout va mal. Non ? Ce n'est pas la bonne version, ça. Ce n'est plus la version la colombe, c'est la version le pigeon. La version biblique dit « Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans la tribulation, persévérez. » Amen. Mon frère, ma sœur, si tu veux être comme Noé, il faut que tu apprennes à te réjouir en espérance, à être patient dans la tribulation, dans les échardes et persévérer dans la prière. Romains chapitre 15, verset 13, dernier verset pour aujourd'hui. Il dit que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Est-ce qu'on veut, frères et sœurs, bâtir l'avenir pour nous-mêmes, pour notre famille, pour nos enfants, pour ceux qui sont autour de nous? Il faut avoir un langage différent. Il faut commencer à mettre les planches là où il le faut. Il faut commencer à construire les étages qu'il faut. Et pas regarder petit. Vous savez, souvent, on regarde petit. Moi, je dis, Seigneur, change-nous le regard. Fais-nous voir en grand. Moi, je rêve de voir la ville de Arles convertie au Seigneur. Est-ce que j'ai le droit ou pas? Alors, si j'ai le droit, je dis PACAC. Ou je mets aussi la Corse. Hein? PACA. Et après, pourquoi pas la France? Non? Vous imaginez le dimanche matin? On voit tout le monde sortir de chez soi pour aller où? Au temple? Mais non, on va au Camargue. Au temple, il n'y a pas assez de place pour tout le monde, ma sœur. On est obligé. Et je pense que ce serait une église à ciel ouvert. Non? Est-ce qu'on a le droit de penser à ça? Mais vous savez, le salut commence là où on est. Dieu a dit à Noé, bâtis là où tu es. Commence là pour ta famille. Je sais ce qui va se passer, Noé. Vous imaginez bâtir quelque chose pendant 120 ans, sans relâche, en se disant, je sais ce que Dieu va faire. Mais je ne veux pas arrêter de bâtir parce que ce que Dieu a dit, Dieu va le faire. Qu'est-ce que Dieu va faire? Bientôt. Vous en êtes où avec vos travaux? Vous en êtes où avec votre arche pour vos enfants, pour vos petits-enfants? Est-ce qu'on continue à bâtir malgré les échardes? Oui, mais il m'a dit ceci. Tu imagines, il m'a dit cela. Enlève l'écharde et avance. Vous savez, Jésus a dû en sentir des échardes sur cette croix. Je suis sûr que ce n'était pas du bois tout lisse. Et il les a acceptés pour qui? Pour nous. Et qui que vous soyez ce matin. Peut-être que vous avez des raisons pour dire, moi je ne peux pas encore y croire parce que si... Dites-vous que l'humanité aujourd'hui agit d'une manière injuste, mais que Dieu sera toujours juste. Vous pouvez fixer vos regards sur l'injustice du monde, mais moi je voudrais vous inviter à regarder sur la justice de Dieu, sur la bonté de Dieu, et à bâtir votre salut et celui de votre couple, celui de votre famille, en vous disant, Seigneur, je sais que ce que tu dis, tu vas le faire. Vous savez, il y en a peut-être qui ont pu, en voyant la pluie arriver, courir vers l'arche de Noé. Mais il n'y avait pas de poignée à l'extérieur. Et vous savez, ils auraient pu s'accrocher à l'arche de Noé. Non? Et il y en a aujourd'hui qui s'accrochent, ils viennent peut-être même à l'église, mais encore, ils ne sont pas montés dans le bateau. Ils sont accrochés juste à côté. Je suis sauvé. Je suis à côté du bateau. Hein? J'ai une main accrochée au salut. Mais je voudrais vous dire, vous n'êtes pas sauvé tant que vous n'êtes pas dans le bateau. Parce que parfois, il y a des petits poissons, 3-5 mètres, qui aiment bien l'apéro. Et l'ennemi aime bien détruire, aime bien arracher. Et tant que vous n'êtes pas sur le bateau avec Jésus-Christ, vous n'êtes pas sauvé. Excusez-moi de vous le dire, mais je crois qu'il faut être clair, on n'a plus le temps de rigoler. Non ? Ce n'est pas la croisière s'amuse, c'est question du salut. Et je voudrais nous encourager tous, et on le verra la semaine prochaine, avoir un regard vers le Seigneur et surtout de faire ce que Dieu nous demande. Parce que quand on fait ce que Dieu nous demande, si même le monde attriste le cœur de Dieu, nous, nous réjouissons notre Dieu. Et je crois qu'il n'y a pas mieux que réjouir notre Dieu. On va fermer nos yeux quelques instants. Seigneur, merci encore.